Assalamu alaykum wa rahmatullah. Bonsoir à nos auditeurs, auditrices. Bienvenue sur les ondes de Pastel FM. Vous êtes à l'émission La Prophétie, qui existe depuis plus de 10 ans, comme vous le savez, tous les vendredis de 20h à 22h et pendant la période de Ramadan, à 3 reprises durant la semaine. Donc on vous remercie d'être fidèles à nos émissions depuis de nombreuses années. On rappelle que vous êtes sur Pastel FM 99.4, les coordonnées 03 20 73 59 00. Émission Prophétie, qui est animée par l'association Rencontre et Dialogue, qui se trouve place de la Liberté à la maison des associations, 59100 à Roubaix. On a une petite adresse email. Alors c'est vrai que souvent il y a des questions et des courriers envoyés avec timbre ou quoi que ce soit. On essaie de téléphoner pour essayer de nous joindre, essayer d'avoir des questions. Donc on a une petite adresse email que vous pouvez utiliser. Alors c'est très simple, c'est pastel.prophétie@laposte.net. Alors pastel.prophétie@laposte.net. Donc vous pouvez envoyer vos emails, vos suggestions, vos questions, si vous avez des envies par rapport à tel ou tel sujet, vous voudriez qu'on réponde. Donc il n'y a aucune difficulté. On a quand même, alhamdoulilah, un panel d'intervenants assez large, donc on pourra essayer de traiter en tout cas des sujets que vous aurez bien envie qu'on développe sur nos ondes. Alors ce soir, émission avec Ahmed Mektar. Salam alaikum Ahmed.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Farid à la technique, donc à la technique et au téléphone. Il y a deux semaines, on s'était vu, Ahmed, si je m'abuse, deux ou trois semaines, et on parlait de la sourate, le Fatiha, l'ouverture, celle qu'on traite depuis, on disait, plus de deux ans, en tout cas, et on est arrivé au verset Iyyaka na'budu, donc on était sur le verset de l'adoration. Donc on va revenir à cela, on y était pendant une heure et demie, on va continuer. C'est vrai que c'est un chapitre qui est très 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 large et on pourrait y passer beaucoup de temps. Donc voilà, on va essayer inchallah de traiter de cela ce soir.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ce soir, inshallah ta'ala, on va continuer le sujet de l'adoration. Et comme nous avons dit il y a deux semaines, ce sujet est très important parce que c'est le pilier principal du culte musulman et de la vie des musulmans partout où ils se trouvent, dans n'importe quel contexte, puisque l'adoration et son concept, il est général. Et il signifie le fait d'être khalifa fil ard, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Adam et sa progéniture afin qu'ils soient gérants de la vie ici-bas, qu'ils organisent, qu'ils construisent la vie. Et cette gestion, cette organisation, cette construction de la vie, cet épanouissement de la vie sur terre se fait par l'action. Cette action est une adoration. Aussi, de cette adoration sort ce qu'on appelle le culte, parce que le terme adoration peut comporter aussi le culte, c'est-à-dire les prières et nusuk, c'est-à-dire tout ce qui est sacrifice et tout ça, le fait d'immoler les moutons le jour de l'Eid et ainsi de suite. Tout ça rentre dans le cadre de l'adoration qui est le culte. Le fait de faire le pèlerinage, et nous sommes dans la période des voyages, des départs, des pèlerins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège et les fait parvenir à leur but, inshallah ta'ala, qu'ils retournent à leur famille, à nous tous, bénis par Allah, illuminés par la foi et purifiés de leurs méfaits. Amin. Donc tout ça, ça rentre et ça tourne autour de ce qu'on appelle les piliers de l'islam. Et ces piliers de l'islam qui sont du nombre de 5, et le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith ou les hadiths qui parlent des piliers de l'islam, parce qu'il y en a plusieurs, nous on prend celui qui est courant chez les musulmans, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, rapporté par les authenticités de Bukhari au Muslim, dans lequel il dit Buniya al-islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah wa iqamu al-salah wa ita'u al-zakah wa hajju al-bayt wa sawmu ramadan. Et donc ce hadith, il met Ramadan en dernier et il met avant lui le pèlerinage. Par contre, la plupart des hadiths parlent du Ramadan avant le pèlerinage. L'essentiel, c'est que les cinq piliers de l'islam sont le fait de témoigner de l'attestation de foi, qu'il n'est de Dieu que Allah et que Mohammed est son envoyé, d'appliquer la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en sorte que dans la réponse à la question de Jibril concernant l'islam et les piliers de l'islam, il les met dans un ordre bien défini, du plus important vers l'important, car tous les cinq piliers de l'islam sont très importants. Ils sont, comme disent nos maîtres, l'ulama, ils disent minad dini bid darura, c'est-à-dire c'est des actions qui sont yani primordiales dans le din, dans notre religion, et notre religion a besoin de ces actions, sinon elles ne seraient pas appliquées ni pratiquées sur terre. Donc l'adoration au sujet de laquelle nous avons parlé la semaine dernière, elle est en général. On n'a pas spécifié. On n'a pas parlé de salat, on n'a pas parlé de zakat, on n'a pas parlé de Saum Ramadan et de l'Hajj. Pourquoi ? Parce que c'est des choses que nous traitons presque souvent dans les émissions. Donc on ne va pas les spécifier. On va peut-être citer quelques exemples, puisque, comme disent les ulama, bil mithal yattadihu al maqal, grâce à l'exemple, nous comprenons mieux. On citera des exemples certainement, mais on reste toujours sur notre but, qui est de rapprocher le sens et la signification et la définition du concept de l'adoration en islam. À ce que le musulman ne croit pas, ou le non-musulman qui nous écoute, ne croit pas que l'adoration en islam c'est uniquement la salat, la prière, ou c'est uniquement le jeûne du Ramadan, mais pour nous, l'adoration, c'est la vie tout entière. Nous avons cité un verset du Coran. Si tu te rappelles, Abdel Qader, le verset qui dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ » Le verset nous dit « Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. » Allah Azza wa Jalla nous a créé, nous et le monde invisible que nous connaissons, le monde du djinn, que pour adorer Allah. Et donc ce terme adoration ne veut pas dire uniquement salat, la prière, uniquement l'invocation, ne veut pas dire uniquement le pèlerinage ou autre, mais il est en général et il rentre dans le cadre de quoi ? Du mandat pour lequel Adam il a été choisi et créé par Allah subhanahu wa ta'ala, pour un mandat bien précis qui est l'adoration d'Allah par la gestion de la vie sur terre. Le musulman et la musulmane, quand il va prendre rendez-vous avec quelqu'un, quand il prend rendez-vous, il signe au nom de son islamité. Donc il est dans le cadre de l'adoration. Le musulman et la musulmane, quand ils s'engagent, ils signent au nom de leur islamité. Donc ils sont dans le cadre de l'adoration. Le musulman et la musulmane, quand ils voyagent, sont ainsi dans l'adoration. Quand ils se marient, ils sont dans l'adoration. Quand ils regardent, quand ils écoutent, quand ils donnent, quand ils prennent, quand ils se déplacent, quand ils travaillent, quand ils mangent, quand ils suivent des études, quand ils donnent des études, et ainsi de suite. On se réveille par l'adoration. On dit, quand on se réveille, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Loué soit celui qui nous a redonné la vie après l'avoir prise. Et nous, dès qu'on se réveille, on ne parle pas avec nous. Puis, à chaque action du musulman, il y a une question. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a comblé d'invocation et de prière pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il nous a comblé. Quand on se lève, voilà une invocation et un dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de mentionner Allah. Et le prophète alayhi salam nous a dit, celui qui mentionne Allah, parce que Allah l'a dit dans un hadith Qudusi, celui qui me mentionne tout seul, je le mentionne tout seul. Et ça, c'est un grand honneur pour toi qui m'écoutes, d'être mentionné par le roi suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que dans la vie de l'ici-bas, le fait de que notre prénom soit mentionné par une personne qui a un statut important dans la société, pour nous c'est un honneur. Alors imaginez le roi suprême, le possesseur de toute possession, loué soit-il. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole divine, celui qui me mentionne, Allah azza wa jalla parle, selon bien sûr la traduction, celui qui me mentionne, je le mentionne, et celui qui me mentionne dans sa solitude, je le mentionne tout seul. Celui qui me mentionne dans un groupe, quel qu'il soit, je le mentionne, Allah dit, je le mentionne dans un groupe meilleur que celui-là, meilleur que le groupe dans lequel il a été mentionné. Et quel honneur! Et ça, c'est une adoration. Le fait de dire Bismillah, le matin quand on sort de la maison pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller à un rendez-vous, pour sortir, faire un commerce ou pour, et ainsi de suite. Muhim, on sort, ala barakatillah, on dit bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ou bien, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il mange automatiquement, comme un aimant attire, c'est ta parole, elle attire un ange. Celui qui le dit, l'ange lui répond, kufita wa ufita yawmaka kullahu hatta ta'ud. T'es protégé toute ta journée, toute entière jusqu'à ton retour. Protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah t'a entendu. Allah t'a envoyé cet ange. Allah t'a protégé subhanahu wa ta'ala. Quand on s'habille, on mentionne Allah. Quand on se déshabille, on mentionne Allah. Bismillah. Quand on rentre dans les toilettes, avant de mettre les pieds dedans, quand si c'est un lieu impur ou bien si c'est un lieu qui sont mauvais, on le dit avant d'y pénétrer. Dès qu'on rentre, on dit Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Oh Allah, je te demande protection contre les démons, mâles qu'ils soient ou femelles. Subhanallah. Adoration à Allah. Tu sors, tu vas pour faire tes besoins, t'adores Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'aller, regarde bien Abdel Qadir, yani, subhanallah, l'islam comment il est, le fait d'aller faire ses besoins à temps, ne pas se presser son ventre et attendre et se faire mal au ventre, le fait de le faire à temps est une adoration, nous dit le professeur. Le fait d'avoir des rapports sexuels avec son époux, son épouse, est une adoration, sadaqa. Et tout ça, c'est très important. Salman al-Fail ici, le compagnon, radiallahu anhu, un homme parmi les gens du livre, lui posa une question dans laquelle il y a une formule de moquerie. Il lui dit, il paraît que votre prophète vous a tout appris, toute chose. Et Salman al-Farisi a répondu, oui, certes, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a tout appris, même comment aller à la selle. On a toute une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si ceci est notre besoin, même si on suit un besoin dit naturel de l'être humain. Mais quand on le fait, et on le fait d'une manière à suivre l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça rentre dans le cadre de l'adoration. Le prophète alayhi wa sallam a dit, le travail est une adoration. Le fait que tu travailles, c'est une adoration. Que tu ailles travailler pour subvenir à tes besoins et besoins de ta famille est une adoration. Car le croyant fort est meilleur pour Allah que le croyant faible. Car la main qui donne est meilleure pour Allah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la main qui reçoit. La main haute est meilleure que la main basse. Et ainsi de suite. Donc c'est très très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Et d'ailleurs, c'est Salman al-Farisi qui vient avant de devenir musulman. C'est le lendemain, il va devenir musulman. Il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Salman avait fait toute sa vie avant de rencontrer le prophète. Il était à la recherche et à la quête de la vérité. Donc il est passé d'une religion à une autre. Il était mage au premier d'origine, puis il est passé au christianisme, puis au judaïsme. Avec qui il a vécu, il a suivi, il a cherché, il était à la quête de la vérité. Il ne l'avait pas encore trouvé, mais il avait lu dans les livres judéo-chrétiens les signes du sceau des prophètes. Il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, donc c'est juste une parenthèse qui rentre dans le cadre de l'adoration. il vient avec un grand plat de dattes, mais c'est pas n'importe lesquelles, c'est la meilleure qualité de dattes. Il l'a acheté, il l'a ramené, il l'a mis entre les mains du prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est quoi ça, ou Salman? Et Salman n'était pas encore croyant, n'était pas encore musulman. Il lui dit, c'est quoi ça, Salman? Il lui dit, ceci est une sadaqa, c'est une aumône pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, prends-la, car nous n'acceptons pas de sadaqa, d'aumône. Et Salman n'a pas posé de question. Le lendemain, il revient, car le même est de qualité meilleure que celle-ci. Et il le met entre les mains. Le prophète dit ça, Salman, et lui a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il dit aux compagnons, alors vous pouvez vous servir. Et donc, il refuse l'aumône, il accepte le cadeau. C'est un signe que c'est un prophète. Car les prophètes n'acceptaient pas de sadaqa d'aumône parce qu'ils ils ne demandent pas ce besoin. Ils sont pas des gens qui appellent la sadaqa. Puis après, Salman, il a fait un tour derrière le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète l'a compris. Il a dévoilé son dos, alayhi wa sallam, et Salman a vu le sceau de la prophétie. Et là, il s'est assis devant lui et il a témoigné de la foi. Tout ça pour vous dire que le fait d'accepter sadaqa, alors qu'on n'est pas yani, dans le cadre d'être dans le besoin, ça sort du cadre de l'adoration et on rentre dans autre chose, c'est-à-dire toucher à quelque chose qui ne nous est pas licite. Et ça, c'est le contraire de l'adoration. Car l'adoration, elle est ce qui est licite par Allah subhanahu wa ta'ala et autorisé par Allah et son messager. Donc sadaqa en général, et on a cité des exemples, l'adoration en général, pardon, et on a cité des exemples, notamment sadaqa, qui est l'aumône ici dans ce qu'on a rapporté du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'adoration ne s'arrête pas là. L'adoration va encore plus loin. Le fait de planifier, de programmer, organiser l'avenir de la personne, l'avenir de ses enfants, l'avenir de sa famille, l'avenir de son quartier, de participer à l'élaboration des projets et tout ça, c'est une adoration chez nous en islam. Et elle se fait pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, car toute bonne action et toute action louable, elle est considérée amrun bima'ruf, c'est-à-dire elle est considérée yani adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons vers des fournis qui nous parlent de la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous l'adorions. Le verset que nous allons citer va nous montrer que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est pour lui. C'est-à-dire la finalité, le but de la soeur. Ne veut lui pas. Qui c'est qui va bénéficier? Vous donnez quelque chose, mais vous ne donnez pas à autrui si ce n'est vous-même. Vous vous adressez à un Seigneur, et quand vous vous adressez à lui par ce qu'il vous a prescrit, canoniquement, vous bénéficiez vous-même de l'action que vous faites. Et donc, celui qui est l'intérêt central de l'adoration, c'est l'être humain lui-même. L'être humain lui-même, il est un intérêt. Il est celui qui a prescrit cette adoration canoniquement, qui l'a rendue obligatoire. Pour le bien-être de qui? Pour le bien-être de celui qui la pratique et qui l'applique. Donc, on fait un effort, et cet effort, en réalité, ne peut avoir de résultat, et ne doit avoir de résultat, que au profit de nous-mêmes. C'est pour ça que lorsqu'on l'adore pas subhanahu wa ta'ala et qu'on fait quelque chose qui est contraire à son adoration, on tombe dans ce qui est illicite. Et les choses illicites ne sont qu'en dépit de notre propre personne. Et cela nous rapproche d'un hadith qudsi qui est une parole divine aussi, que vous trouverez dans les 40 hadiths du Nawawi, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô être humain, si vous vous rassemblez tous, ainsi que les djinns, et que tous vous demandez ce dont vous avez besoin, et que je donne à chacun d'entre vous ce qu'il a demandé jusqu'à épuisement de sa demande, cela ne diminuerait rien de mes biens que je possède. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a prescrit l'adoration, l'invocation, la demande, il ne l'a prescrit que pour notre propre intérêt, notre propre personne. Le premier qui a bénéficié de cette adoration, c'est Adam alayhi salam. Et ça, vous l'avez dans Sourate Al-Baqarah. Dans Sourate Al-Baqarah, Adam est décrit comme créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, mandaté pour gérer la vie sur terre. Mais il était au paradis quand Allah l'a créé. Il a passé un séjour au paradis. Ce séjour au paradis devait normalement lui faire connaître sa demeure éternelle, qui est sa demeure originelle. Il est venu du paradis, Adam alayhi salam. Certes, il y a une part de la terre en lui, yani en nous, même nous, les êtres humains, mais l'âme et l'intelligence ont été soufflées en Adam alayhi salam au paradis. Car nous-mêmes, comme dit l'imam al-Ghazali rahimahullah dans l'Ihya, nous-mêmes, quand est-ce que l'âme elle est soufflée dans notre corps? Quand on est dans le ventre de notre mère. Et dans le ventre de notre mère, on vit une vie paradisiaque. Et donc, l'être humain, il a connu l'adoration là-bas, au paradis. Comment? Alors que normalement, le paradis, c'est une demeure de quoi? C'est une demeure qui est un résultat. C'est le résultat, ce n'est pas l'effort. L'effort, il se fait ici sur terre. Mais Adam devait comprendre et devait connaître et savoir qu'il y a des choses halal et il y a des choses haram, des choses autorisées, des choses où il y a des restrictions qui sont interdites. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, lui a interdit, il lui a autorisé toutes choses. Fais ce que tu veux, nourris-toi et ton épouse de tout ce que vous voulez dans le paradis. Ne touchez pas à cet arbre uniquement. Épreuve de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle Adam et Ève et son épouse Hawa, ils ont échoué tous les deux. On ne dit pas que Ève a échoué et a causé l'échec de Adam, ce qu'on appelle le péché original. Mais en islam, il n'y a pas ce péché, il n'existe pas. L'islam, le Coran nous dit que tous les deux, ils ont une intelligence, tous les deux, ils ont été éprouvés, tous les deux devaient suivre les préceptes de Dieu. Et s'ils ont commis l'erreur, ils l'ont commis tous les deux, en dépit de leur propre personne, tous les deux. Mais Allah va faire en sorte que le premier homme au paradis va connaître proprement son qui est en lui, la partie démoniaque qui est en nous. Car Iblis, Satan, n'a pas parlé avec Adam quand il l'a poussé à toucher lui et son épouse à l'arbre, et ne leur a pas parlé sous forme de serpent. Ce n'est pas vrai. Le Coran nous dit qu'il a soufflé des paroles à l'intérieur de Adam alayhi salam et de Hawa. Et cela vous le trouverez dans la sourate Taha. Allah le dit clairement qu'il a soufflé des paroles. Il ne pouvait pas se cacher de Dieu. Nul ne peut se cacher de Dieu. Et donc Adam a connu son ennemi, c'est-à-dire celui qui ne veut pas que Adam adore Allah subhanahu wa ta'ala. Car cet ennemi qui est en nous, c'est celui qui sur terre nous empêche et essaye de nous empêcher jour et nuit d'adorer Allah comme il se doit, loué soit-il. Mais Allah ne nous a pas laissé comme ça sans défense. Il a mis de l'autre côté aussi un côté angélique. Donc nous avons aussi un ami intime qui est un ange, notre côté angélique, qui nous appelle à faire le bien, qui nous appelle à l'adoration et qui nous éloigne de tout ce qui est rendu illicite par Allah. Et c'est entre l'adoration, elle a commencé dès la création de Adam alayhi salam, à savoir que Adam avait compris qu'il devait adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la première chose qui est quoi? Qui est touché à ce qui est autorisé. Et Allah Azza wa Jal, tout ce qui nous a autorisé, on va le voir tout à l'heure, tout ce qui nous a autorisé dans la vie de l'ici-bas par l'islam est immense. Les choses dans lesquelles il y a des restrictions sont peu, vraiment peu, très peu. Donc il a interdit un arbre, et il a autorisé. Et si vous tournez plus proche comme vous voulez, laissez-vous. Mais sauf cet arbre, ne le touchez pas. Mais Adam et Ève, par leur oubli, ils ont oublié, Allah Azza wa Jalla l'a dit, فَنَسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, et puis ils n'ont pas fait l'effort pour se rappeler, ils ont été éblouis, ils n'ont pas fait l'effort pour se rappeler, et ils sont tombés dans la tentation de Iblis, qu'il a soufflé en eux, et bien sûr, ils ont touché à cet arbre. Et quand ils ont touché à cet arbre, ils vont connaître une autre forme d'adoration, déjà au paradis, qui est l'adoration de la prière et l'invocation. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans surat al-Baqarah, il dit فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Et ce verset, il le dit après qu'il a parlé de l'adoration générale. Il dit Adam a eu de la part de son Seigneur un enseignement. Allah lui a enseigné des invocations. Et il a formulé cette invocation et Allah lui a pardonné. Cette invocation, vous la trouverez dans une autre sourate. Et cette invocation, ça, c'est la parole dans laquelle Adam alayhi salam dit, lui et son épouse, Rabbana, au pluriel, ils sont deux, hein, Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Notre Seigneur, nous n'avons fait de mal qu'en dépit de notre propre personne, par notre péché. Si tu ne nous pardonnes pas notre péché, nous serons parmi les perdants. Voilà, inshallah ta'ala.
On va se faire inshallah une petite pause. On se retrouve dans quelques minutes. Restez à l'antenne de Pastel 99.4. Assalamu alaikum. De retour sur les ondes de Pastel FM. Il est 20h51. On rappelle qu'à partir de 21h, vous pourrez inshallah poser vos questions en direct, si vous le souhaitez, cela permet en tout cas qu'il y ait un petit peu plus d'interactivité. Et on rappelle les coordonnées 03 20 73 59 00, 03 20 73 59 00. On a aussi une adresse email qu'on rappelle, pastel.prophétie@laposte.net, pastel.prophétie@laposte.net. Vous pouvez poser vos questions, faire vos remarques, ou quoi que ce soit. Nous en tiendrons compte, inshallah, et nous répondrons à vos questions. 03 20 13 59 00, à partir de 21h, vous pouvez poser vos questions, il n'y a aucune difficulté. On revient sur notre thématique de ce jour, Ahmed, sur l'adoration, et on s'est arrêté justement sur, on parlait un peu de la gestion de la vie au quotidien, c'est-à-dire qu'effectivement l'adoration elle passe par le culte avec les cinq piliers de l'islam, mais en dehors de cela, c'est simplement à voir dans la vie de tous les jours, c'est une éthique, et on prenait l'exemple justement d'Adam alayhi salam au paradis. Il avait le choix de toucher à tout, de faire à ce qu'il voulait, sauf à une chose, et pourtant insufflé par le shaitan, chacun pourra se remettre en question, en tout cas par rapport à cela, la tentation, et il aura péché à ce niveau-là, il sera chassé du paradis, comme vous le savez, et par l'invocation après par Allah, Jibril, il a pu avoir en tout cas le pardon. Donc voilà, c'était on est arrivé là, et notamment à la sourate al-Baqarah.
Et on a dit que surat al-Baqarah, elle va nous parler de l'adoration, elle va nous parler de la piété, car la piété c'est bien sûr le summum de l'adoration, et un résultat grâce auquel les portes du paradis sont ouvertes, qui est la piété. La piété nous parle de croire en l'invisible, de appliquer la salat, de partager les biens, de croire en ce qui a été révélé auparavant et ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de s'appliquer dans la vie. Et elle nous dit, ces versets là nous disent à la fin, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ce sera certainement ceux-là qui vont réussir. Alors quelle réussite? Par le temps uniquement de la réussite de la vie dans l'au-delà, qui est le paradis. Mais non, en islam non, on parle d'abord de la vie de l'ici-bas, car la réussite dans la vie de l'ici-bas permet la réussite dans la vie de l'au-delà. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Ce que ton Seigneur te donne, utilise-le pour acquérir la réussite dans la vie de l'au-delà. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Et n'oublie pas ta part dans la vie de l'ici-bas.
Barakallahu fik, on reviendra inchallah sur la thématique. On va reprendre une question en direct, 5 minutes avant l'heure quand même, enfin, on avait des partants de 21h. Non mais il n'y a pas de problème, on va prendre la question inchallah. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Ouais, Farid, petit problème technique, je sais pas, on a la personne, j'ai l'impression d'entendre quelque chose à l'arrière. Oui, allô?
On entend Farid.
Allô, salam alaikum.
Alaikum salam.
Voilà, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît.
On vous écoute.
Voilà, c'est pour ce qui concerne la prière. J'ai un problème avec, parce que comme la dernière fois, je suis sortie et quand c'était la prière de Dor, et au moment de la prière de Dor, j'avais un rendez-vous. Vous voyez, parce que Dor, maintenant, c'est à 1h25. Et là, j'ai passé la prière Dor et comme j'avais le rendez-vous, c'était pendant toute la journée, je suis rentrée le soir, j'ai fait la prière, j'ai oublié Dor et j'ai fait la prière de Salat al-Asr et Salat al-Maghrib et Salat al-Isha. Et après, je me suis rappelé que j'ai pas fait Dor. Et là, oui. Je l'ai fait, mais je sais pas si... Parce qu'une fois, j'ai entendu, mais je n'étais pas sûre.
D'accord. Donc,
Donc
vous avez deux questions. Hein. La première, pour que la réponse soit bénéfique pour tout le monde, inchallah. La première, elle nous parle du fait que vous avez oublié une prière. Vous avez oublié de faire une prière et vous ne vous êtes rappelé qu'après la dernière prière qui est Salat al-Isha, par exemple.
Voilà.
Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dort, s'évanouit ou oublie une prière, l'heure de cette prière est au moment où il s'en est rappelé. C'est-à-dire que vous vous en êtes rappelé après Salat al-Isha, eh ben c'est l'heure de la prière d'Dhuhr pour vous. Vous faites votre prière d'Dhuhr et Inch'Allah, Allah l'accepte comme si vous l'avez fait à 13h.
Voilà, je l'ai fait à la fin, c'est pour ça que j'avais dit d'autres.
Voilà,
je suis pas sûr que c'est accepté ou non, c'est pour ça que je...
Voilà, donc Inch'Allah, elle est acceptée. D'accord ?
Inch'Allah, barakallahu fik.
Ça, c'est la première, une partie de votre question. La deuxième, que j'ai compris, ben, c'est juste une remarque, Inch'Allah, c'est vous avez dû prier l'Asr quand vous êtes rentré le soir.
Oui.
Alors, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais regrouper les prières de la journée avec les prières du soir. D'accord ?
Parce qu'en fait, j'ai pas trouvé le moment où j'ai fait
voilà.
La prière.
Voilà, alors moi je vais vous donner la solution.
Oui.
La solution en islam, c'est que le prophète, alayhi salam, une fois, avait fait la prière à midi, sans qu'il y ait de pluie, sans qu'il y ait de voyage, sans qu'il y ait de contraintes, n'importe laquelle. Il a fait, ni d'intempéries, il a fait la prière de Dhuhr et l'Asr ensemble, l'une après l'autre, et il a fait la prière de l'Maghrib ou l'Isha ensemble, l'une après l'autre. Et le hadith est rapporté dans le Bukhari ou le Muslim. Et Abdullah ibn Abbas qui a rapporté ce hadith, on lui a posé la question, pourquoi il a regroupé ses prières sans qu'il y ait de raison d'intempéries, ni de guerre, ni de voyage, qui sont vraiment les raisons qu'on connaît. Et le compagnon a dit qu'il a yuhrija ummatah, afin que sa nation, quand elle est face à une difficulté qui ne lui permet pas de faire la prière à l'heure, elle a le droit de regrouper deux prières, mais qui sont dans le même contexte, c'est-à-dire les deux prières de la journée dans la journée et les deux prières du soir dans le soir. À ce moment-là, Inch'Allah, par la suite, si vous êtes dans la contrainte, vous êtes obligé, parce que vous avez un rendez-vous, parce que vous allez rester à l'extérieur, que vous n'avez pas aucun moyen ni aucun recours pour que vous puissiez faire la prière à l'heure, de l'Asr par exemple, alors priez Dhuhr ou l'Asr avant de sortir, à l'heure de Dhuhr.
D'accord,
voilà Inch'Allah.
Salam alaikum. Donc on vous remercie pour vos questions. Donc n'hésitez pas à appeler au 03 20 13 59 00 pour vos différentes questions. On essaiera d'y répondre au mieux et en direct. Ahmed, on va reprendre là où on est arrivé.
Alors, on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans la sourate Al-Baqara du concept de l'adoration. Il a parlé au début de la piété qui est le résultat, qui est le fruit. Il nous a parlé du fait que ces gens-là qui sont dans ce cadre, qui est le cadre de la piété, sont ceux qui vont réussir. Mais cette réussite n'est pas une réussite uniquement dans l'au-delà, qui est vraiment la véritable réussite, et c'est celle, l'ultime réussite dont on a tous envie et pour laquelle nous vivons tous, hein. Mais Allah veut pour nous une réussite ici-bas aussi. Et cette réussite de l'ici-bas, Allah le dit dans un autre verset: وَابْتَغِ فِيمَا أَتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Et cherche en utilisant ce que ton Seigneur t'a donné à acquérir la réussite dans la vie de l'au-delà. Et n'oublie pas d'acquérir la réussite dans ta part de la vie de l'ici-bas. Parce que tu y as une part dans ta vie qui est celle de l'ici-bas. Celle-là, il faut la réussir. Et comment la réussir? En adorant Allah. Car si tu adores Allah, tu réussis la vie de l'ici-bas, et cela te permet de réussir celle de l'au-delà. Et c'est pour ça qu'Allah Azzawajal, dans la même sourate, sourate Al-Baqarah, va nous dire: Ya ayyuhan nas, s'adressant à toute l'humanité, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh humains, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés pour que vous atteigniez la piété. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit pour quelle raison vous devez l'adorer. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha. C'est lui qui a fait en sorte que la terre soit pour vous un lit, le lit dans lequel vous trouvez votre repos. La terre, quand on la foule, elle n'est pas difficile pour nous. L'un de nos maîtres, qui est Cheikh Al-Shanqiti rahimahullah, dans son livre Adwa al-Bayan, dans le tafsir du Qur'an al-Karim, dit: imaginez que la terre soit, au lieu qu'elle soit de ce qu'on connaît nous, le sable, l'argile et tout ça, et les pierres et tout ça, imaginez qu'elle soit en fer. Comment allons-nous vivre? Difficilement, oui ou non? Alors Allah a facilité le fait de fouler la terre, le fait de vivre sur terre. Et donc, pour cette raison, il faut quoi? Il faut l'adorer. Mais comment? À rendre la vie sur terre facile, pour vous et pour autrui.
On a une personne en direct, on va la prendre. Oui, allô? Allô?
Oui.
Salam alaikum, bonsoir.
Alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, bonsoir. J'appelle pour poser une question.
Oui,
donc, qui rejoint un petit peu la question précédente concernant les prières. Donc, si jamais ça nous arrive de prier, par exemple, le Maghrib et l'Isha en même temps, donc est-ce qu'il faut commencer par la prière de l'Isha ou alors prier le Maghrib, ensuite l'Isha?
Ah non, il faut suivre l'ordre.
Oui.
Et l'ordre suscite que le Maghrib soit avant l'Isha. Voilà, Inch'Allah.
Oui, parce que la version que j'ai eue, c'était de prier la prière, la dernière des prières. Donc c'était l'heure de l'Isha et qu'on n'avait pas prié le Maghrib. Donc moi, on m'avait dit de prier l'Isha, ensuite le Maghrib et de refaire l'Isha pour que ce soit dans l'ordre.
Mais vous êtes dans l'ordre.
Exact ou pas?
Non, mais vous êtes dans l'ordre là. Vous avez fait le Maghrib et après l'Isha. En fait, ce que vous avez eu, c'est une réponse de quelqu'un qui suit le rite malikite. Qui est le seul rite parmi les quatre rites connus, Hanafite, Hanbalite, Shafi'ite, Malikite, le seul qui dit: lorsque quelqu'un vient à la prière de l'Isha, par exemple, pour faire la prière de l'Isha avec un groupe dans une mosquée, d'accord, et qu'il n'a pas encore fait la prière de le Maghrib, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rentrer avec eux à la prière en ayant l'intention de faire une prière surrogatoire.
D'accord.
Donc il n'a pas fait l'Isha, ma soeur.
D'accord.
Et après il va faire le Maghrib ou l'Isha. D'accord.
D'accord.
Voilà.
Bon, bah, très bien. Barakallahu
fik. Merci.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Donc revenons, Inch'Allah, et continuons dans notre thématique. L'adoration ici, c'est en citant la terre qu'Allah Azza wa Jalla a créée et qu'il a facilité l'accès pour nous à cette terre, qu'il a permis à ce que l'homme bénéficie de la terre comme il veut. L'homme, il fait de la terre ce qu'il veut. Regardez l'homme, il fait des trous dans la terre. L'homme fait des tunnels. L'homme fait des trous dans les montagnes pour traverser et passer ses autoroutes. L'homme construit des ponts d'un bord de la terre à un autre bord de la terre en traversant l'océan et la mer ou la rivière. Donc l'homme gère la terre. Mais cette gestion, pour qu'elle soit une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'elle soit d'une manière à ce que toute la créature d'Allah en bénéficie, à ce que on ne détruit pas une créature pour faciliter la vie à une autre créature, à ce que l'homme ne détruit pas la nature pour construire des autoroutes, hein, ne coupe pas et ne détruit pas une forêt et des arbres uniquement pour traverser une autoroute ou un train ou ainsi de suite. Mais il faut que, s'il le fait pour l'intérêt général, qu'il fasse en sorte de trouver un compromis, quelque chose d'autre, pour que la nature ne soit pas détruite. Trouver un autre moyen pour que... Parce que des arbres qui manquent, c'est de l'oxygène qui manque. Des arbres qui manquent, c'est du gaz carbonique de plus. Et ainsi de suite. Donc l'homme, il doit gérer d'une manière à ce que il n'y ait ni darar ou la dirar, comme il a dit le professeur, qu'il ne subisse pas de préjudice et qu'il ne fasse pas subir de préjudice à autrui. Et tout préjudice est levé en islam. À chaque fois qu'il y a une difficulté, l'islam nous trouve une facilité. À chaque fois qu'il y a une dureté, l'islam nous trouve la simplicité et la tendresse dans la vie. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété le fait de le mentionner, al-dhikr. Et Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim dit: فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Toujours dans la même sourate, sourate 2, le Baqara. ذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Mentionnez-moi, vous serez mentionné, comme l'a dit dans dans le hadith que je vous ai cité au début. وَشْكُرُوا لِي. Et soyez reconnaissant vis-à-vis de moi. وَلَا تَكْفُرُونَ. Car celui qui n'est pas reconnaissant, il m'écroit. Donc, cette reconnaissance du fait qu'Allah Azza wa Jalla a facilité pour nous l'accès à la terre, à faciliter pour nous la gestion de la vie sur terre, cette adoration, elle est la première des adorations pour laquelle l'être humain a été créé. Puis après, à l'intérieur de cette adoration, bien sûr, découlent d'autres adorations que nous allons, inshallah, en citer l'une après l'autre. Il dit Alladhi ja'ala lakum al-arda firashan. Dans un autre verset, dit Alladhi ja'ala lakum al-arda mihadan. Mihadan, yani, c'est-à-dire un lit qui est fait de soie, avec de la soie, que vous trouverez la facilité et la tendresse pour vivre sur cette terre. Et puis après, il dit, le dijalal kum arda firashan, et dans surat Yasin, il dit, wadallalnaha, et nous avons facilité l'accès à la terre et sur terre pour l'être humain. Dans surat al-Mulk, il dit la même chose. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. C'est lui qui vous a facilité la vie sur terre. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. Voyagez comme vous voulez. Contemplez-la. Connaissez tout ce qu'il y a sur terre. Et à chaque fois qu'on découvre, on découvre l'immensité et le fait que la créature d'Allah est grandiose. Et on découvre à travers ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur parfait, loué soit-il. Et nourrissez-vous de ce qu'il vous a autorisé. De ce qu'il vous a autorisé. Et en faisant cela, en adorant Allah, toujours, il faut que vous ayez quelque chose de très important, une certitude, hein, dans votre foi, c'est que vous allez retourner à lui. Vous allez rendre des comptes. Vous avez été mandaté. Et chaque mandaté, il doit bien sûr faire un rapport de son mandat. Qu'est-ce que vous avez fait durant votre mandat? Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour cette
prière. Barakallahu fik. 21h et 10 minutes, on va s'opérer une petite intermède pause musicale ou alors non, du Coran, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Ça sera un plaisir. Barakallahu fik. On se retrouve d'ici quelques minutes. Salam alaikum.
Sadaq Allahu al-Azim, de retour sur la zone de Pastel FM. Je me suis permis de prendre la parole, Dédi, juste pour une petite précision. Donc, comme je suis à la technique, donc c'est un peu compliqué pour moi, je dis ça aux auditeurs.
Il n'y a pas de problème.
Voilà, qui nous téléphonent et qui veulent prendre les questions en antenne. Donc, c'est un peu compliqué.
Oui, on les encourage vivement à le faire en direct.
Donc, vraiment, je vous encourage vivement. Donc, les gens sont un peu timides, etc. C'est pas évident, je suis tout seul. Donc, vraiment, si la personne, elle veut vraiment pas passer, etc. Bon, je veux bien prendre la question, mais c'est un peu compliqué. Donc la question, elle sera un petit peu faussée. Donc sera, j'aurai un peu du mal.
C'est pas grave,
parfois, c'est des grandes questions. Chose. Donc voilà. Donc j'appelle la sœur qui, parce qu'on s'est pas compris. Il y a une sœur qui a appelé, qui a raccroché. Donc je la rappelle. Je lui demande si c'est possible de rappeler. Et je vais essayer de noter sa question. Et il y a une sœur donc qui avait appelé. Donc qui pose une question Ahmed par rapport à la sourate al-Fatiha, notamment dans sa récitation lors de la prière. Et notamment la récitation donc du dernier verset qui finit par voilà dalin. Elle donc comment ce dernier verset doit être récité, voilà dalin, voilà dalin, comment on doit le dire, parce que donc la traduction est différente. Et si pendant depuis qu'on prie on dit voilà on dit la mauvaise façon, comment ça se passe pour le rattraper ou si on doit rattraper? Voilà, donc c'est tout.
Inch'Allah. Bismillah, alhamdoulilah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Concernant la récitation de Sourat al-Fatiha, elle est obligatoire. C'est un pilier de la prière. Il faut la réciter, Inch'Allah ta'ala. Comme il est obligatoire de la réciter, comme tout le Coran, de la manière par laquelle il a été révélé. Donc, de la même manière qu'il a été révélé, il faut le réciter, Inch'Allah ta'ala. Et il ne faut pas du tout dire wala dhalin, dha. Il ne faut pas dire ça. Ça, c'est faux, ça change le sens, oui. Et c'est ce qui est interdit. Il faut pas, on peut se tromper sans changer le sens. Ça, c'est acceptable et on doit faire des efforts pour modifier notre récitation. Mais quand on fait une erreur qui change le sens, là, il faut s'arrêter et apprendre, Inch'Allah ta'ala, de la meilleure manière, et apprendre en écoutant. Il faut écouter le récitateur que vous avez, qui récite, pour pouvoir mieux, Inch'Allah ta'ala, la réciter. Donc moi, je vais vous réciter le verset, et Inch'Allah ta'ala, vous allez voir Ad-Dad, comment il faut la prononcer. Ad-Dad, c'est une lettre un peu difficile dans la langue arabe, mais avec l'exercice, Inch'Allah ta'ala, on arrive à la prononcer comme il le faut. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc c'est de cette manière, il faut tenir dad, la lettre, et la lâcher difficilement pour que la langue ne sorte pas entre les dents et prononcer l'autre lettre qui rend notre lecture faussée, Inch'Allah ta'ala. Donc faites l'effort, Inch'Allah, pour corriger ma sœur ainsi que tous mes frères et sœurs qui récitent la sourate al-Fatiha et qui font la prière. Faites l'effort de prononcer les lettres de la manière par laquelle le verset a été révélé, comme par exemple ihdina as-sirata, parce que as-sad ou sin, c'est pas la même chose. As-sirata al-mustaqim, as-sirata, il faut un peu avancer la mâchoire inférieure pour pouvoir prononcer la lettre as-sad comme il faut. Elle est plus emphatique dans le sens qu'elle donne que la lettre sin, qui ne l'est pas du tout. Ouais, Inch'Allah.
Barakallahu fik. Il y avait aussi une autre question en antenne, donc c'est une personne donc musulmane, hein, pratiquante, qui a fait un grand péché, et sa question c'est de savoir comment pour un musulman donc averti, à partir du moment où il a fait un grand péché, comment se faire pardonner d'Allah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Tout d'abord, il faut que cette personne sache qu'on est des êtres humains et qu'on est faillible, et qu'on est exposé tous à l'épreuve, et dans cette épreuve il y en a qui glissent, il y en a qui restent debout, et celui qui reste debout, alhamdulillah pour lui, et qu'Allah Azza wa Jal fasse en sorte qu'il continue à rester debout. Par contre, celui qui glisse et tombe, celui-là il doit savoir se relever, et se relever pour de bon. Et se relever pour de bon, c'est se repentir. L'imam al-Nawawi rahmahullah, dans le chapitre Le Repentir, qui se trouve dans son livre Riyad al-Salihin, Jardin des Vertueux, il commence par une introduction en disant: le repentir, par consensus des savants de l'islam, est une obligation pour tous les musulmans. Tout musulman doit se repentir. Pourquoi? Parce qu'on commet tous des péchés. Et donc, comment se repentir quand on a commis un grand péché, que nous soyons pratiquants ou que nous ne soyons pas pratiquants? Comment il faut faire? Tout d'abord, il faut se fier à ce qu'on appelle sa conscience. Parce que c'est la conscience qui nous permet de faire quoi? De vouloir le repentir et de chercher le repentir. Et quand on se fie à notre conscience, à ce moment-là, la personne elle a les remords, ce qu'on appelle les regrets. Ça, c'est le premier stade du repentir. Le regret, les remords, alors il faut passer immédiatement à l'action. Et l'action, là, c'est quoi? C'est d'arrêter la mauvaise action, d'arrêter le péché majeur qu'on a commis. Il faut l'arrêter, stopper. Ça, c'est la deuxième action, deuxième chose. Première chose, c'est regretter. Deuxième chose, arrêter l'acte blâmable. Troisième chose, c'est promettre à Allah de nous aider, promettre à Allah, pardon, de ne plus y retourner et lui demander aide. Promettre à Allah de ne plus y retourner à ce péché et lui demander aide. Pourquoi? Parce qu'on est faible et on a besoin de notre Seigneur dans tout. Parmi ces choses dont on a besoin de lui, c'est de rester pur de tout péché majeur, inshallah. Qu'Allah nous préserve des péchés majeurs et qu'Allah nous pardonne tous nos péchés majeurs, inshallah. Amin.
Barakallahu fik, Ahmed. On va reprendre une question cette fois en direct. Oui, allô.
Allô, bonsoir.
Bonsoir.
Ahmed, bonsoir.
Bonsoir.
Smahliya Sharif, je vais me repentir devant toi, mais j'ai une question après.
Là, c'est pas faisable. On se repent pas devant les êtres humains.
C'est la bonne question. Je la ferme et je vais donner un exemple dans l'histoire.
Oui.
Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, a suivi Ali au Islam.
Non.
C'est un repenti.
Oui.
Celui qui a. Ma question, pour abréger la souffrance des musulmans, parce que wa aqsimu laka billah wallahi wa ta'allah sa aqumu salat wa atu zakat a quand le khalifa yaquluna kanu arba'a wa khamsa wallahu a'lam a quand la nation musulmane yarham yabak la'anik c'est un souffle pour qu'on abrège, parce que l'islam il a apporté beaucoup à l'humanité. Je crois que les musulmans, ils attendent un khalifa. À votre connaissance, est-ce qu'il faut encore militer jusqu'à ce qu'il arrive, ou là il y a des signes qui, dans votre connaissance, il est temps que le khulafa rachidine, c'est ça ce qui manque à l'umma islamia. Est-ce que vous avez quelques notions? Wallahu a'lam.
Inch'Allah.
Je vous souhaite un bon courage, ça nous fait tellement plaisir. Yarham waldik.
Barakallahu fik.
Barakallahu fik, yarham waldik.
Amin ya rabbi wa antum. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Selon mes faibles connaissances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis que le khilafa, yani le califat va avoir un retour, inshallah ta'ala. Mais dans les textes coraniques et prophétiques, nous, il apparaît à nous, évidemment, que le khalifa, hein, ou le calife, ne peut connaître le jour et avoir lieu dans un pays musulman que lorsque les musulmans sont prêts et capables de le mettre. Et c'est pour ça que la plupart des textes coraniques et prophétiques traitent du sujet de l'éducation. Si les musulmans sont éduqués à l'islam, si les musulmans sont prêts à faire cela, c'est eux-mêmes qui vont former l'un d'eux-mêmes pour être un jour calife. Et juste pour dire à mon bien-aimé frère, c'est que on n'a pas besoin de calife pour être musulman. S'il vous plaît, ne pensez pas que pour avoir le salut, il est obligatoire d'avoir le calife. On peut connaître le salut, on peut connaître la paix, on peut connaître sans qu'il y ait de calife musulman. Et bien sûr, plusieurs musulmans dans l'histoire ont connu cette paix, ont connu tout ce fait et ce bonheur de la vie sans qu'il y ait khilafa elle-même dans leur pays ou sur leur terre dans laquelle ils vivaient. Aussi, l'État musulman n'est pas obligatoire pour être musulman. Regarde nous-mêmes, alhamdoulilah, on est en France, grâce à Dieu, on vit notre islamité, alhamdoulilah, mieux que certains musulmans, on va dire plusieurs musulmans, qui vivent dans des terres dites musulmanes. Donc, l'islamité et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, telle que nous essayons de vous faire parvenir le sens de son concept, si elle est vraiment bien comprise et que nous appliquons ce qu'Allah Azza wa Jalla nous demande. Et Allah nous demande trois choses. Il nous demande tout d'abord de nous préserver nous-mêmes. Deuxièmement, de préserver les nôtres. Troisièmement, de préserver le monde dans lequel nous vivons. De quoi ? De tous les maux accessibles à nous, que nous sommes capables de les éloigner à nous-mêmes et à autrui. Hein ? Parce que le monde dans lequel nous vivons, nous baignons dedans, et nous sommes des gens qui peuvent influencer comme ils peuvent être influençables. Et c'est pour ça qu'il faut savoir vivre, il faut avoir le savoir-être et le savoir-vivre, inshallah ta'ala. Comportement, science, connaissance, et bien sûr, vie commune avec entre musulmans et entre musulmans et non musulmans. C'est très très important. Il ne faut pas qu'on soit des gens qui sortent du contexte et qui vivent dans un contexte, yani dans un monde imaginaire, et yani rêver des princes comme certaines elles rêvent des princes charmants. Nous, on va rêver des princes des croyants ou là des commandeurs des croyants, alors qu'on fait rien pour qu'il y ait des commandeurs de croyants. La Turquie, par exemple, n'a connu Mohammed el-Fatih, dit Mohammed el-Fatih, le grand calife de Turquie, que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord, bien sûr, le Seigneur, mais grâce à son père, qui l'a éduqué, qui l'a mis entre les mains d'éducateurs, entre les mains de scientifiques, entre les mains d'intellectuels. Et Mohammed el-Fatih, qui est un grand calife connu dans l'histoire, sa mère était chrétienne. Eh oui, mon frère, étudiez l'histoire et vous verrez. Elle ne l'a jamais empêché d'étudier l'islam, au contraire, elle l'a encouragé. Elle est restée dans sa chrétienté parce que l'islam nous dit, le Coran nous dit, point de contrainte dans la religion. Alors, on revient à notre sujet, inshallah. Donc, de retour à notre sujet, sachez, mon frère, ma sœur, qu'Allah en a dit à faciliter la vie sur terre. Il nous a permis de fouler la terre facilement. Mais il nous a permis aussi de bénéficier de ce qu'il y a dans la terre, sur la terre. Car l'homme rentre à l'intérieur, dans la profondeur de la terre, et sort des minéraux. Il en bénéficie. Aussi, l'homme fait, grâce à Dieu, et son intelligence et sa connaissance de l'agriculture, fait sortir aussi des plantes de la terre. Il en bénéficie dans sa nourriture, et la nourriture des bêtes qui lui servent aussi de nourriture. qui sont les vaches, le poulet, la volaille par exemple, et les brebis, et ainsi de suite. Donc tout ça est cité dans ce verset dans sourate al-Baqarah. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an. Et le ciel de la vie d'ici-bas est pour nous, comme l'a dit Allah dans un autre verset, saqfa. C'est un toit protecteur. Et c'est pour ça que l'homme, lorsqu'il est sorti de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dévié le chemin de l'adoration, qu'il est allé dans les excès, qu'il n'a pensé qu'à lui-même, il a fait un trou dans la couche d'ozone. Et cette couche d'ozone, elle est un toit qui nous protège. Saqfan, dit Allah azza wa jal. Et Allah Azza wa Jalla dit ici, il a dit ja'ala lakum al-ardha firashan wa as-samaa'a binaa'an. Un édifice. Le ciel est un édifice. Et cet édifice, nous vivons dedans. Hein? Et il faut donc bien sûr le découvrir, contempler ce monde, avoir plus de connaissances et de sciences pour pouvoir bien sûr gérer pour le mieux sa vie. Après il dit wa anzala min as-samaa'i maa'an. Et donc la question de l'eau, anzala min as-samaa'i maa'an, Allah a fait descendre et couler du ciel quoi, une eau, l'eau. Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Et il a fait sortir, comme on a dit tout à l'heure, il a fait jaillir de la terre grâce à l'eau, il a fait jaillir les plantes pour que ce soit une nourriture pour vous et une nourriture pour ceux qui vous nourrissent, de qui vous nourrissez. Et donc l'eau est importante, bien sûr, elle est importante aujourd'hui plus qu'avant. Elle est importante encore demain, parce qu'à fur et à mesure, il y a un manque d'eau sur terre. Et à fur et à mesure, l'homme inconscient gaspille l'eau. Et le musulman qui gaspille l'eau, c'est un musulman qui désobéit à Allah, qui est hors l'adoration d'Allah lorsqu'il utilise l'eau. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis 15 siècles, nous a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand vous faites les ablutions, même d'une source jaillissante, ne prenez que ce dont vous avez besoin pour votre ablution. Pas de gaspillage, mon frère, ma sœur. Et nos maîtres lisaient, barakallahu fikoum, le livre La revivification de la spiritualité musulmane de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi. Vous verrez le chapitre dans lequel il parle des ablutions, l'utilisation de l'eau dans les ablutions. Les ulama ont considéré comme péché le fait d'utiliser plus que ce dont on a besoin pour nos ablutions. Et après avoir fini, verser cette eau. La verser, et en plus la verser dans les oubliettes, inconsciemment, comme si on n'a rien fait. Alors qu'il y a des gens qui meurent de soif, qui ont besoin de cette eau. Il y a des animaux qui meurent aussi de soif et qui ont besoin de cette eau. Donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en général, en islam, elle est classée selon bien sûr le fiqh al-islami. Elle est classée dans ses caractères par des règles. Ces règles sont du nombre de trois au sujet desquels tous les savants de l'islam sont en accord. Par contre, il y a des savants qui ont rajouté un quatrième, d'autres ils ont rajouté un cinquième, comme l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Cette classification courante chez les savants, elle est du nombre de trois. La première, c'est ce qui est dans l'adoration de l'homme, dans sa vie, de l'être humain, du musulman, considéré comme mubah. Ou le mubah, on peut le traduire par le permis. Les choses permises. Et il y a une règle très, très importante, mon frère, ma soeur. Prends-la aujourd'hui de moi, écris-la, mentionne-la, apprends-la par cœur. Enregistre-la, il faut qu'elle soit pour toi un repère. C'est quoi? C'est que les ulama ils nous ont dit al-asl fil ashiya'i al-ibaha. Al-asl fil ashiya'i al-ibaha. La nature de toute chose, c'est la permission. C'est qu'elle est permise. Quand est-ce qu'elle devient autre chose? Quand est-ce qu'elle prend un autre statut? Quand est-ce qu'elle sera classée autrement que le permis, lorsque le texte authentique nous parvient d'Allah et de son messager, qui nous dit que cette chose, elle est sortie du cadre du permis à un autre cadre. Et donc toute chose, elle est dans sa nature autorisée. D'accord ? Après, les savants nous ont parlé, dans les choses, il y a deux catégories. Pardon, il y a trois catégories. Il y a la catégorie de ce qui émane de la terre et du monde qui entoure l'homme. Et cette catégorie, c'est celle-là dans laquelle il y a l'autorisation et permission de toute chose, jusqu'à qu'on ait un texte qui interdit quelque chose. Par contre, il y a une deuxième et une troisième catégorie. La deuxième, c'est les actes et les pactes sociaux. Les savants nous disent, tout acte et tout pacte et tout pacte social et accord et engagement sont de nature permis. Ils sont permis, autorisés. Donc tout acte, mon frère, ma sœur, tout engagement que tu t'engages, il est permis, de nature. Après, on va voir. Est-ce que le texte nous est parvenu? Est-ce que Allah et son messager, est-ce que les savants de l'islam nous ont dit que tel ou tel acte ou pacte, par exemple un acte d'achat ou de vente avec usure, là, bien sûr, il est de nature halal, il est permis, hein, mubah, mais le texte du Coran et de la Sunna du professeur sallam l'interdit par la suite. Mais de nature, il est autorisé, il est permis. Le troisième point dans ce cadre-là, le cadre de ce qu'on appelle al-mubah, le permis, après avoir cité tout ce qui sort de la terre et tout ce qui est autour de la vie de l'homme, et après avoir cité les pactes et les actes et les engagements, il nous reste quoi? Il nous reste les adorations cultuelles. Tout ce qui est culte et toute adoration cultuelle, elle est de nature, mon frère, haram, illicite, interdite. Jusqu'à ce qu'il nous parvienne un texte du Coran et de la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique qui nous dit que telle adoration, elle est permise ou elle est canoniquement obligatoire, prescrite par Dieu. Un exemple, quelqu'un qui vient et qui regroupe al-dhuhr ou al-maghrib à l'heure de l'maghrib, le soir. Moi, je lui ai dit tout à l'heure, la nature, c'est quoi? C'est que haram, ça. C'est illicite. On ne doit pas le faire. S'il me ramène un texte que le professeur sallam l'a fait, à ce moment-là, bien sûr, on lui dit, sami'na wa ata'na, nous avons entendu, nous obéissons. Quelqu'un qui vient et qui fait la prière de l'fajr, 3 rak'at. De nature, cette adoration, elle est non autorisée, illicite. S'il nous ramène un texte authentique qu'il dit que le professeur sallam a prié l'fajr 3 rak'at, on le suit. Et il n'y en a pas. D'accord. Donc ça, c'est la première classe des adorations concernant la jurisprudence musulmane, le fiqh, dans ses ahkam, yani dans ses règles. Troisième classe, après al-mubah, il y a quoi? Il y a al-mustahab. Ou al-mustahab, c'est ce qui est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se fait comment? Elle se fait ou par sa propre parole, il le dit lui-même, ou par son acte. Par exemple, le prophète alayhi wa sallam dit au compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il lui dit, ô Abdullah ibn Mas'ud, par Allah je jure, je t'aime pour Allah. Et Abdullah lui dit, moi aussi je t'aime pour Allah et je donnerai ma vie, mes biens et ma famille pour toi, au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit je t'aime parce qu'il va lui donner quelque chose, il va lui conseiller quelque chose, il va lui dire de faire quelque chose. Il lui a dit 3 choses que tu dois faire. Et parmi ces 3 choses, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il lui a dit ne va jamais au lit sans avoir fait la prière de l'ouitre. D'accord? Alors par cet acte, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le fait que le prophète lui-même alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais manqué la prière de l'ouitr avant le fajr, il l'a toujours fait sallallahu alayhi wa sallam, même pendant les voyages, alors que pendant les voyages il nous est permis, il l'a fait lui-même, de réduire le nombre des raka'at, de regrouper les prières et de se contenter de ce qui est obligatoire, hein? Alors il n'a jamais raté alayhi sallallahu alayhi wa sallam la prière de l'huître et la prière dite de l'fajr, les deux rak'at à voix basse qui se font avant la prière de Subh. Donc ces prières, ces deux prières, elles sont pour les savants de l'islam et pour nous, pour la Ummah tout entière, des prières qui sont recommandées par le professeur sallam sans être obligatoires. Sunnah mu'akkada, sans être obligatoire. Par exemple, l'Eid bientôt. L'Eid dit l'Eid de le sacrifice et l'immolation du mouton, hein, qui vient juste après le pèlerinage. Hein. Le fait d'immoler le mouton, de l'acheter et de l'immoler le jour de l'Eid et de le sacrifier au nom de Dieu subhanahu wa ta'ala, n'est pas une obligation chez les savants de l'islam, sauf l'imam Abu Hanifa, qui le considère une obligation. Parce que lui, il se base sur un verset du Coran que nous connaissons tous par cœur et qui, dans son apparence, prouve l'obligation. Le verset dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Non, le verset dit أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. C'est surat al-Kawthar. Cette surat, nous la connaissons par cœur. Elle nous parle de quoi? De salat, qui est salat al-Eid, et de nahr, qui est le fait d'immoler le mouton. Donc elle dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Et donc النَّحْر معطوف في اللغة العربية على الصلاة. Et si la salat elle est obligatoire, bien sûr l'immolation du mouton elle devient obligatoire selon bien sûr l'école de l'imam Abu Hanifa. Mais la majorité des savants de l'islam nous dit que cet acte est un acte recommandé, il n'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de le faire si on n'a pas les moyens, et ainsi de suite. Par contre, si on a les moyens et que c'est bénéfique pour, bien sûr, la continuité de la connaissance de l'islam et la transmission de ces sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux générations, alors à ce moment-là, il est recommandé de les faire. Troisième catégorie, ou troisième, pardon, classification selon le fiqh, l'islam et selon la jurisprudence concernant les adorations, c'est les choses qui sont dites wajib. Ou le wajib, ça veut dire les choses qui sont obligatoires. Et les choses qui sont obligatoires, ou par parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou acte du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et elles sont toutes en consensus. Toutes les choses qui sont considérées canoniques, obligatoires, wajib, fard ala al-muslimin, toutes elles sont par consensus chez les musulmans sunnites, les sunnites. Personne ne peut nier l'une de ces choses qui sont obligatoires. Notamment, par exemple, la salat, les cinq prières canoniques de la journée. La salat de Jumu'ah, le vendredi, une fois tous les trois vendredis. D'accord? Pour les hommes, pas pour les femmes, le vendredi. Le jeûne du mois du Ramadan, pour celui qui en est capable. Pas pour le malade et le voyageur et la personne âgée et la femme enceinte et la femme qui allaite et ainsi de suite. Donc, il y a toujours des souplesses. Il y a l'obligation, mais à côté d'elle, il y a quoi? Il y a la souplesse et la permission de faire autre chose quand on n'a pas la possibilité. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous rend prescrit obligatoirement et canoniquement que ce qui est dans notre possibilité. Lorsque c'est hors nos possibilités, Allah nous a prescrit de faire quoi? De ne pas le faire. Et le prophète sallam a dit inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah aime que vous appliquez les autorisations comme il aime que vous appliquez les prescriptions obligatoires. Et donc ce qui est wajib et obligatoire, ce sont les choses, bien sûr, les cinq piliers de l'islam que nous connaissons, hein. Et ce sont bien sûr des choses qui en découlent. Par exemple, le noble caractère, c'est une obligation. Par exemple, être bon vis-à-vis de ses parents, c'est une obligation, mon frère, ma sœur, et c'est une adoration. Le fait d'être bon vis-à-vis de son époux et son épouse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum. Khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Je suis l'exemple pour vous. Et le meilleur d'entre vous est le meilleur envers son épouse ou son époux. C'est une obligation d'être bon vis-à-vis du voisin. Le professeur Hassan m'a dit, tellement Jibril il vient me recommander d'être bon vis-à-vis des voisins que j'ai cru qu'il allait lui donner une part dans l'héritage. Et le voisin avec le grand V majuscule, sans exception, ni de religion, ni d'appartenance tribale, ni d'appartenance ethnique et de couleur. Yani, voisin, c'est tout. Aussi, yani, d'autres obligations qui sont, par exemple, le fait d'honorer ses engagements. Le musulman, comme l'a dit le professeur Asselem, quand il s'engage au nom de Dieu. Parce que c'est l'homme qui dit la ilaha illallah. C'est la personne qui dit la ilaha illallah. Et donc, quand on s'engage, on va jusqu'au bout de notre engagement, ou bien on ne s'engage pas du tout. Et on reste tranquille. Aussi, bien sûr, le fait d'accompagner dans l'éducation ses enfants. Hein? D'éduquer ses enfants. Hein? D'aider le pauvre et l'orphelin et la personne qui est en voyage et la personne qui est dans le besoin et qui subit un préjudice ou une injustice, il faut bien sûr obligatoirement, quand on a la possibilité et la capacité de le faire, il faut le faire obligatoirement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils font partie de l'enfer des gens qui ont été présents au moment où une personne subissait une injustice, ils ne l'ont pas aidé. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ils sont en enfer des personnes qui étaient présentes durant un moment où une personne subissait une injustice et ils ne l'ont pas secouru et aidé.
L'assistance à personne en danger.
Voilà. Et donc tout ça, c'est très très important et ça fait partie de nos adorations. Hein. Et nos adorations au niveau canonique sont donc trois classes. La classe dite al-mubah, ce qui est permis, autorisé. La classe dite mustahab, yani recommandé. Et la classe dite wajib, obligatoire, ou bien fard, obligatoire. La première classe, mon frère, ma soeur, qui est la classe du mubah, du permis, celle-là, quand tu l'as fait, en la faisant, tu n'as aucune hasana. Tu adores Allah Azza wa Jal en faisant cela, parce que tu le fais parce que Allah l'a autorisé, donc c'est une adoration, mais tu n'as aucune récompense, si ce n'est ce que tu vis en tant qu'être humain. Mm-hmm. Exemple. Il nous est mubah, permis, de chanter et d'écouter la chanson. D'accord ? Chanter, écouter la chanson, il nous est permis de le faire. Ce n'est pas une obligation et ce n'est pas recommandé. C'est une permission. Mubah. Si je chante et que ça me fait du bien, c'est la seule chose que je reçois. Si j'écoute une chanson et que ça me fait du bien, c'est la seule chose que je reçois et c'est beaucoup quand même. Par contre, est-ce que j'ai une récompense, même si je fais dhikr en chantant? Je n'ai pas de récompense. Pourquoi? Parce que nos maîtres nous disent, le prophète n'a jamais fait dhikr, qui est une adoration, en chantant. D'accord? Il ne l'a jamais accompagné avec une percussion ou n'importe quoi. Si je le fais et que ça me fait du bien, c'est pas un problème, mais je n'ai pas de récompense de quelqu'un qui fait dhikr. Car celui qui fait une adoration prescrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit la faire telle que le prophète l'a fait, sinon elle sera refusée, elle ne sera pas acceptée. Ça, c'est un exemple. Et plusieurs autres exemples existent. Le fait de se nourrir, c'est une obligation, mon frère, hein, le fait de se nourrir. Mais le fait de se nourrir en choisissant l'ahm, la viande, et je choisis parmi la viande de la dinde, par exemple, parce que je l'aime plus que les autres viandes, et je choisis que la dinde soit faite au four, d'accord, accompagnée par telle sauce, tout ça c'est dans le cadre du permis. Ce qui est obligatoire, c'est le fait de se nourrir, mais tous les choix que j'ai fait là, c'est dans le cadre du permis. Je n'ai pas de récompense à en avoir à ce niveau. Par contre, si j'utilise n'importe quelle viande pour me nourrir, n'importe quelle nourriture pour me nourrir tant qu'elle est halal, je me nourris avec pour rester vivant, j'ai la récompense d'avoir permis à mon corps de rester vivant, car c'est une obligation de faire cela et d'entretenir son corps. Deuxième chose, deuxième classe, pour détailler les classes que nous avons citées, al-mustahab, c'est-à-dire ce qui est recommandé par le professeur sallam. Ce qui est recommandé, en le faisant, on a la récompense de faire ce que le prophète a fait, de faire vivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si je ne le fais pas, je n'ai commis aucun péché. D'accord ? Je n'ai commis aucun péché. Donc, je n'ai pas de reproche à subir et à voir si je ne le fais pas. Par contre, si je le fais, j'ai une récompense. Qui est la récompense de faire quoi ? D'appliquer quelque chose que le prophète a recommandé. Dans le recommandé, il y a deux sortes. Il y a ce qui est recommandé proche dans sa recommandation de l'obligatoire. Il y a ce qui est recommandé proche dans sa recommandation du permis. Et donc nous on a parlé de ce qui est proche du permis. Par contre, ce qui est proche de l'obligatoire, celui-là, je ne dois pas, par fainéantise, hein, ou par volonté personnelle, ne pas le faire. Par exemple, les deux prières de l'Fajr avant la prière de Subh le matin et la prière de l'Witr. Cela, il faut les faire, inshallah ta'ala, et continuer à les faire et ne jamais s'arrêter. Et si je m'arrête, c'est par contrainte, ou à cause du sommeil ou de la fatigue, mais jamais à cause de du fainéantisme ou de la fainéantise, ou bien à cause de la propre volonté, que moi-même je dis non, je prierai jamais ces prières. La troisième classe, c'est l'wajib, l'obligatoire. Et l'wajib, l'obligatoire, il est bien sûr contraire de ce qui est interdit, le haram. D'accord ? Le wajib, le fard, il est l'axe de le haram, le mamnoua, ce qui est interdit. Et donc, lorsque je fais quelque chose qui est de mon devoir, certainement j'en bénéficie, je fais bénéficier les autres autour de moi, mais encore en plus de ça, je bénéficie de quoi ? De l'hasanat. Par exemple, la prière à la mosquée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, elle est multipliée 25 ou 27 fois plus que la prière chez soi. Si par exemple la prière chez soi, elle a comme récompense 10, parce que c'est le minimum, 10 hasanat, elle est multipliée par 27, yani 270 hasanat, si je fais la prière, moi en tant qu'homme, à la mosquée. D'accord, il y a même des savants musulmans, ceux qui suivent l'école Hanbalite, qui disent que c'est obligatoire de faire pour les hommes la prière canonique, de la faire à la mosquée. Elle est chez ces savants-là, Hanbalite, obligatoire, et eux, ils se basent sur les versets coraniques qui, lorsqu'ils citent la prière, ils ne la citent jamais, l'application de la prière au singulier. Elle est toujours citée au pluriel. Par contre, la majorité des savants qui ont, à mon sens, Wallahu a'lam, raison, ils disent que non, elle est recommandée, mais elle n'est pas obligatoire, hein, elle est recommandée à la mosquée, Inch'Allah. Donc, le wajib, on le fait, on est récompensé, par contre, si on ne le fait pas, là, bien sûr, on est blâmé, on est privé, et on est châtié si on ne se repent pas et on ne reprend pas cet acte obligatoire. Par exemple, celui qui ne fait pas la salat, la prière, et qui ne la fait pas par fainéantise. Ne parlons pas de celui qui renie la salat, celui-là n'est pas musulman. Par contre, le musulman qui ne fait pas la salat par fainéantise, celui-là, bien sûr, il commet un péché. À chaque salat qui passe, il a commis le péché. Il y a un péché grave, et il risque bien sûr d'être privé ici-bas du bonheur qu'Allah Azzawajal veut pour sa créature, et il ne connaît ce bonheur que celui qui connaît l'adoration pure pour Allah subhanahu wa ta'ala, est privé dans l'au-delà aussi, puisqu'il va devoir rendre des comptes et rendre ses dettes concernant la salat, et rendre les dettes, c'est-à-dire faire un passage qu'Allah nous préserve par la GN, qu'Allah azzawajal protège tous les musulmans et musulmanes, et qu'il protège, incha'Allah ta'ala, toute l'humanité, parce que nous, Allah azzawajal, dans le Coran nous a dit, dans le Coran al-Karim, il nous a, Allah Azza wa Jalla s'est adressé à nous, les croyants, لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. On doit jamais désespérer de la guider pour toute l'humanité. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك يا أحمد. Pour cette émission, inchallah, on continuera dans la même foulée. On se retrouve ben on se retrouve quand Ahmed on se retrouve en janvier inchallah. Il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, je rappelle une adresse, c'est une adresse email. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour les personnes qui ont internet à la maison. Majorité les personnes l'ont. Donc vous pouvez nous envoyer un email avec vos questions, inchallah, on y répondra effectivement avec toi inchallah en janvier. Mais dès la semaine prochaine, on se retrouve avec Hassan et Kyosen. Il y aura Hamza Arbik sera là et Taïb Shoaib. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je rappelle l'adresse pastel.prophétie. Donc prophétie PROPHETIE. Hein, il n'y a pas d'accent sur le E. @laposte.net. Donc pastel.prophétie@laposte.net. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des mails, des recommandations, des questions, vos apports. Nous serons inchallah
des remarques si on s'est trompé.
Et vos remarques bien sûr, elles sont riches d'enseignements. Donc barakallahu fikoum d'avoir été fidèle à l'émission. Vous restez sur les ondes de Pastel FM, émission Safina, émission du chant religieux, donc avec JMF et c'est JMF Tourcoing. Donc restez sur les ondes. Salam alaikum, quant à nous, inshallah. On se retrouve la semaine prochaine avec Hassan et Kyosen. Salam alaikum.